Monsieur de la Ville Audrey avait dû se lever matin. Bien qu'il ne fût pas encore 10 heures, il resplendissait, fardé de frais qu'il était, tard et frisé à miracle. Or, toute cette toilette réparatrice ne pouvait pas être l'œuvre d'un moment. « Ouf » fit-il en entrant. « C'est haut chez vous, mon cher Daniel !» Étourdi, il oubliait son rôle de jouvenceau. Mais il s'en aperçut, car vivement il ajouta. « Ce n'est pas que je m'en plaigne, au moins. Quelques étages à grimper ne me font pas peur. » Et en même temps, d'un air de complaisance, il tendait le jarret, comme pour en attester le ressort, la souplesse et la vigueur. Déjà, cependant, plein de déférence pour le père de Mademoiselle Henriette, Daniel lui avait avancé le meilleur fauteuil de son modeste logis. Le comte s'assit, et d'un ton léger qui contrastait avec le très visible embarras de ses mouvements. « Gageons, mon cher Daniel, commença-t-il, que vous êtes fort surpris et non moins intrigué de me voir chez vous. Je l'avoue, monsieur, si vous aviez à me parler, vous n'aviez qu'à m'écrire, je me serais aussitôt empressé. De venir chez moi, n'est-ce pas, inutile. La vérité est que je n'ai rien à vous dire. C'est un rendez-vous manqué qui vous vaut ma visite. Je devais rencontrer un de mes amis au corps législatif, et il ne s'y est pas trouvé. Assez mécontent, je rentrais, lorsque, passant devant chez vous, je me suis dit « Si je montais surprendre mon marin, je lui demanderais ce qu'il pense de certaines jeunes dames à qui, hier soir, il a eu l'honneur d'être présenté. » C'était ou jamais l'occasion de suivre les prudents conseils de M. de Brévent. Aussi Daniel, au lieu de répondre, se contenta-t-il de sourire le plus agréablement qu'il put. Ce n'était pas assez pour le comte, aussi reprenant sa question. « Voyons, insista-t-il, là, franchement, que pensez-vous de Miss Sarah Brandon ?»« C'est une des plus belles personnes que j'ai vues de ma vie, monsieur. » Un éclair de joie et d'orgueil brilla dans les yeux de M. de la Ville Audrey. « Dites la plus belle, s'écria-t-il, la plus merveilleusement et la plus idéalement belle !» Et c'est là le moindre, le plus infime de ses mérites, monsieur Daniel Chancé. Parle-t-elle, aussitôt les charmes de son esprit effacent les séductions de sa beauté. Et dès qu'on la connaît, on oublie sa beauté et son esprit, pour n'admirer plus que sa simplicité enjouée, sa candeur naïve et les trésors de son âme chaste et pure. La foi, l'ardente foi exclusive, absolue, idiote, donnait à sa face grimée l'expression de l'extase. « Et pensez, murmura-t-il, que c'est le hasard qui m'a placé sur le chemin de cet ange ?» Un soubresaut de Daniel, si marqué qu'il le surprit, l'inquiéta sans doute car il reprit appuyant sur le mot. « Oui, le hasard seul, et je puis vous en faire juge. » Il se tassa sur son fauteuil en homme qui va parler longtemps, et de ce ton d'en face qu'il devait à la surprenante opinion qu'il avait de lui-même, il continua. « Vous savez, mon cher, combien je fus affecté de la mort de la comtesse de la Ville Audrey. Assurément, ce n'était pas la compagne que devait souhaiter un homme politique de ma valeur. Elle était de celle dont la capacité, à grand-peine, se hausse à connaître un pourpoint avec un haut de choses. Mais c'était une bonne femme, attentive, discrète et soumise, ménagère de mes deniers, en sachant néanmoins me faire honneur par la tenue parfaite de notre maison. Ainsi, en toute sincérité, le comte parlait de celle dont il avait été la création et qui, 16 années durant, avait galvanisé sa nullité. Bref, poursuivit-il, la perte de ma femme bouleversa mes habitudes au point de me dégoûter des travaux qui avaient été ma passion, et je me mis à chercher des distractions en dehors. Devenu un des membres assidus de mon cercle, j'ai rencontré Sir Elgin, et sans nous lier, nous en arrivâmes à échanger quelques paroles et à l'occasion un cigare. Écuyer consommé, Sir Thomas Elgin montait à cheval tous les jours de très bonne heure, et comme les médecins m'avaient recommandé cet exercice, que j'aime comme tous ceux où l'on excelle, nous n'en rencontrions assez souvent au bois. Nous nous souhaitions le bonjour et parfois nous faisions côte à côte un temps de galop. Si je suis peu liant, Sir Thomas l'est moins encore, et notre connaissance ne semblait pas devoir aller jamais plus loin quand un accident nous rapprocha. Un matin, après une assez longue course, nous rentrions au pas lorsque la jument de Sir Thomas, une bête fort difficile, fit un si brusque et si prodigieux écart qu'il fut désarçonné. Lestement, je mis pied à terre pour l'aider à se relever, pas moyen. Et cependant, vous savez si ces diables d'Américains sont durs au mal. Mais il avait, nous le sûmes plus tard, un genou déboîté et une cheville fracturée. L'endroit était désert, et je commençais à me sentir fort embarrassé quand par bonheur deux soldats passèrent. Je les appelais, et confiant à l'un nos chevaux, j'envoyais l'autre chercher un fiacre à la station la plus voisine. Le fiacre venu, nous y installâmes le blessé de notre mieux, et je grimpai sur le siège pour le conduire à l'adresse qu'il m'avait indiquée, chez lui, rue du Cirque. Une fois là, je sonne et je commande aux domestiques de descendre. Non sans peine, ils tirent leur maître de la voiture et les voilà le montant à travers les escaliers, lui geignant faiblement tant il souffrait. Je montai devant et j'arrivai au premier étage quand une porte brusquement s'ouvrit devant moi et une jeune fille parut. Elle était à sa toilette lorsque le tapage que nous faisions l'avait épouvantée, et elle accourait voir. Elle n'avait pris que le temps bien juste de jeter un peignoir sur ses épaules, et ses cheveux en désordre s'échappaient à demi d'une sorte de coiffe de nuit. Apercevant son parent aux mains des valets, elle le crut dangereusement blessé, mort peut-être. Elle devint plus pâle qu'une morte, et poussant un grand cri, elle chancela. Elle serait tombée de son haut dans l'escalier, la tête la première, si je ne l'avais pas reçue entre mes bras. Elle était évanouie, et je la tins ainsi, renversée contre mon épaule, si près que j'étais pénétrée de la moiteur de son corps souple et charmant, si près que je sentais les battements de son cœur contre le mien. Sa coiffe s'était dénouée et ses cheveux s'éparpillant m'enveloppaient de leurs flots dorés et traînaient jusqu'à terre. Mais tout cela ne dura pas 10 secondes. Revenant à elle et se voyant dans les bras d'un inconnu, toutes ses pudeurs se révoltèrent, elle se redressa, et m'échappant, elle disparut dans l'appartement. Au seul souvenir de cette scène, M. de la Ville-Audry haletait, et on le voyait blêmir sous son fard. Du reste, il ne chercha pas à dissimuler son trouble. « Je suis un vieux diable, reprit-il, et de vous à moi, mon cher Daniel, j'avouerai que les femmes, ne m'ont pas été, comment dirais-je, cruelles. Même, je me flattais d'avoir épuisé toutes les émotions qu'elles peuvent donner. Eh bien non, de ma vie, entendez-vous, je n'ai été remuée par une sensation aussi poignante que celle qui m'étreignait pendant que je soutenais Miss Sarah. » Tout en parlant, il avait tiré son mouchoir plus odorant qu'un sachet, et il s'en tamponnait le front, doucement, par exemple, et avec des précautions infinies pour ne point gâter l'œuvre savante de son valet de chambre. « Vous connaîtrez Miss Sarah, Daniel, » poursuivit-il bientôt. « Quand on l'a vue, on veut la revoir. » Heureusement, j'avais un prétexte pour me présenter chez elle, et dès le lendemain, je sonnai à sa porte demander des nouvelles de Sir Thomas Elgin. On me conduisit à l'appartement de ce digne gentleman, et je le trouvai étendu sur une chaise longue, les jambes emmaillotées. Près de lui lisait une respectable dame à laquelle il me présenta, et qui n'était autre que Mistress Brian. Ils m'accueillirent fort bien, non sans une certaine réserve, cependant, que je discernais sous leur politesse, mais j'eus beau prolonger ma visite au-delà des convenances, Miss Sarah ne parut pas. Je ne l'aperçus pas davantage lorsque je revins à diverses reprises m'informer du blessé, et véritablement, à la fin, je n'étais pas éloigné de croire à un parti pris. Ma foi, oui, j'y croyais presque lorsqu'un jour, Sir Tom, allant mieux, manifesta le désir d'essayer quelques pas à pied aux Champs-Élysées. Je lui offris mon bras, il voulut bien le prendre, et au retour, il me pria d'accepter sans façon le dîner de la famille. Si poignant que fut pour Daniel l'intérêt de ces confidences étranges, depuis un instant, il ne prêtait plus à M. de la Ville-Audry qu'une oreille distraite. Un bruit singulier, dont il ne pouvait comprendre la cause, à peine saisissable mais persistant, le préoccupait à l'agacer. À force de regarder autour de lui, il en eut l'explication. La porte de sa chambre, qu'il était bien certain d'avoir fermée, était maintenant entrebâillé. S'ennuyant tout seul et aidé par la curiosité, M. de Brévent avait trouvé son moyen de voir et d'entendre. De tout cela, M. de la Ville-Audry ne vit ni ne soupçonna rien. « Ainsi donc, reprit-il, j'allais revoir Miss Sarah. Parole d'honneur, j'étais moins ému, je crois, le jour où la première fois j'abordais la tribune. Mais j'ai quelque puissance sur moi et j'étais déjà remis lorsque Sir Thomas Elgin m'avoua qu'il m'eût invité plus tôt, s'il eût craint de désobliger fortement sa jeune parente, laquelle s'était déclarée résolue à ne jamais se retrouver avec moi. Peinée, je demande en quoi j'avais pu lui être désagréable. Et alors, Sir Tom, avec ce flegme admirable qui ne le quitte jamais. « Ce n'est pas à vous qu'elle en veut, répondit-il, bien à elle-même à cause de la scène ridicule de l'autre jour. Vous entendez, Daniel, il appelait ridicule cette scène adorable que je viens de vous dire. Il n'y a que les Américains pour de telles énormités. » J'ai su depuis que pour contraindre Sarah à me recevoir, il avait fallu lui faire une sorte de violence. Mais elle eut le bon goût de n'en rien laisser paraître lorsque, un peu avant de se mettre à table, je lui fus présenté. Elle rougit, il est vrai, extrêmement, mais c'est avec une franchise toute virile qu'elle me tendit la main, coupant le compliment que je lui débitais pour me dire « Vous êtes l'ami de Tom, vous serez le mien. Ah, Daniel, vous avez admiré Miss Brandon au théâtre. C'est chez elle qu'il faut l'étudier. Au dehors, quoi qu'il lui en coûte, elle sacrifie aux exigences du monde. Dans son intérieur, elle ose être elle-même. Du reste, ainsi qu'elle l'avait dit, nous fûmes promptement amis, si promptement que je ne laissais pas que d'être surpris quand elle me parlait comme à une vieille connaissance. Je ne tardais pas à découvrir le mot de cette énigme. Les jeunes filles françaises, mon cher Daniel, sont charmantes sans doute, mais ignorantes en général, légères et insoucieuses de tout ce qui n'est pas cancan, roman ou chiffon. Autres sont les Américaines. Ce qui intéresse leur esprit sérieux, c'est ce qui préoccupe leurs pères et leurs frères. La politique, l'industrie, les débats des chambres, les découvertes des savants. Le comte de la Ville-Audry, dont la carrière politique a jeté un certain éclat, ne pouvait être un étranger pour Miss Sarah Brandon. Ma passion à défendre les causes que je croyais justes l'avait souvent passionnée. Émue par mes discours qu'elle lisait, sa pensée plus d'une fois était remontée à l'orateur. Il me semble encore l'entendre me dire de sa belle voix qui a les pures sonorités du cristal. « Oh oui, je vous connaissais, monsieur le comte, oui. Et il y a eu des jours où j'aurais voulu être de vos amis pour vous crier. C'est bien ce que vous faites là, c'est grand, c'est courageux. » Et elle ne mentait pas, car elle avait retenu nombre de passages de mes discours. De ceux même que j'avais oubliés, elle les citait presque textuellement. Ébahie parfois de certaines idées très fortes qu'elle émettait, je l'en complimentais et alors elle éclatait de rire, me disant « Mais c'est de vous, cher comte, c'est votre bien. C'est vous qui avez dit cela en telle et telle occasion. Et si le soir, rentré chez moi, je feuilletais mes collections pour vérifier le fait, je trouvais presque toujours que Miss Sarah avait raison. Dois-je ajouter après cela que je devins l'hôte quotidien de la rue du cirque? Non, n'est-ce pas? Ce que je veux que vous sachiez, c'est que là, j'ai trouvé l'image de la félicité la plus parfaite et la plus pure qu'on puisse rêver ici-bas. Là, j'ai été saisie de respect et d'admiration par l'honnêteté la plus sévère, unie au plus chaste engouement. Là, j'ai savouré les heures les plus délicieuses entre Mrs. Bryan, cette puritaine si rigide pour elle-même, si indulgente pour les autres, et Thomas Elgin, le plus loyal et le meilleur des hommes, qui sous des apparences glaciales cache une âme de feu pour ses amis. Quel était le but de monsieur de la Ville-Audry si toutefois il en avait un? Était-il venu expressément pour confier à Daniel le surprenant roman de sa passion? Ou cédait-il simplement à ce besoin d'expansion trop fort qui étouffe les amoureux et les force et les contraint de parler de leur amour, de se trahir, encore qu'ils sachent bien que l'indiscrétion peut leur être fatale? Ainsi s'interrogeait Daniel. Mais le comte ne lui laissa pas le temps de réfléchir et de se répondre. Après une courte pause, il se redressa et changeant brusquement de ton. « Je devine, mon cher Daniel, ce que vous pensez. Vous vous dites, monsieur de la Ville-Audry était amoureux. Eh bien, je vous le déclare, vous vous trompez. » Daniel bondit sur sa chaise et s'oubliant, tant fut grande sa stupeur. « Est-ce possible ? » s'écria-t-il. « C'est exact, je vous en donne ma parole d'honneur. Le sentiment qui m'attirait vers Miss Sarah était celui qui m'attache à ma fille. Cependant, comme je suis un observateur et que j'ai l'expérience du cœur humain, la contenance de Miss Sarah ne laissait pas que de me surprendre. Après avoir été avec moi d'une liberté extrême, expansive et familière, elle était devenue peu à peu réservée jusqu'à la froideur. Il était clair qu'elle était gênée près de moi. Notre intimité, loin de la rassurer, semblait l'effrayer chaque jour davantage. Ce que je compris, vous le devinez, mon cher Daniel. Seulement, comme je n'ai jamais été un fat, je craignais de me tromper. Je m'appliquais à une observation plus attentive, et je ne tardais pas à acquérir la certitude que si j'aimais Miss Sarah d'une affection paternelle, j'avais su éveiller dans son âme un sentiment plus tendre. De tout autre, cette fatuité sénile eût paru à Daniel la comique achevée. Du père de Mademoiselle Henriette, elle le navrait. Si bien que le comte, remarquant sa tristesse et se méprenant, lui demanda « Douteriez-vous de ce que je dis ?»« Non, monsieur, non. À la bonne heure. Je vous prie de croire, du reste, que cette découverte ne m'émut pas médiocrement. J'en demeurai pendant 3 jours ébloui à ce point de ne pouvoir réfléchir et délibérer sainement. Il fallait prendre un parti, cependant. Si l'idée d'abuser de mon expérience pour séduire cet innocent enfant traversa mon cerveau, je la repoussais avec horreur. Et pourtant, il ne tenait qu'à moi, je le voyais et je le sentais. Mais quoi ? Payer du déshonneur de leurs parents l'hospitalité de la vertueuse Mistress Bryan et du loyal Thomas Elgin ? C'eût été une des abominables infamies dont je suis incapable. Devais-je donc renoncer à retourner rue du cirque ? Rompre avec des amis qui m'étaient chers ? J'y songeais, mais je ne m'en sentis pas le courage. Il s'interrompit, cherchant du regard les yeux de Daniel, comme pour y lire l'expression réelle de son opinion. Et lorsqu'il les eut trouvés d'un temps grave, il dit « C'est alors que la pensée d'un mariage me vint. » Ce mot « mariage », Daniel l'attendait. Aussi, bien que le choc fût rude, demeura-t-il impénétrable. Et ce sang-froid dut étonner le comte, car il laissa échapper un mouvement de contrariété et brusquement reprit « Oui, j'ai songé à un mariage, vous me direz, c'est grave ?» Je le sais, parbleu bien, et ce n'est pas en une heure que je me décidai, ni sans avoir pesé le fort et le faible de cette détermination. C'est que je ne suis pas de ces grotesques aisés à berner qui s'abusent eux-mêmes encore plus que les autres ne les trompent, et qui se croient le privilège exclusif d'une éternelle jeunesse. Non, non, je me connais, et mieux que personne, je sais que je touche à la maturité de la vie. C'est l'objection qui tout d'abord s'offrit à mon esprit. Mais à ceci, je réponds victorieusement que l'âge n'est pas une affaire d'extrait de naissance. On a l'âge qu'on paraît avoir. Or, je dois à une existence exceptionnellement sobre et paisible, à 40 années passées à la campagne, à une constitution de fer et aux soins minutieux que j'ai toujours pris de ma personne une verdeur, que m'enviraient tous ces jeunes ératés que je vois traîner la jambe sur le boulevard. Il se redressait et se roidissait en parlant ainsi, bombant la poitrine, cambrant la taille et tendant le jarret. Puis, lorsqu'il jugea que Daniel l'avait assez admiré, « Maintenant, poursuivit-il, passons à Miss Sarah. Vous la croyez peut-être de la première jeunesse ? Erreur ! Elle a 25 ans bien sonnés, mon cher ami. Et pour une femme, 25 ans, hé hé !» Il ricanait. Il était clair qu'une femme de 25 ans lui paraissait vieille, très vieille. « De plus, continua-t-il, je connais la haute raison de Sarah et le sérieux de son esprit. Fiez-vous à moi quand je vous affirme que je l'ai étudiée. Parmi les mille mots insignifiants en apparence et échappés aux naïvetés de ses expansions, je sais qu'elle a les jeunes gens en horreur. Elle a vu ce que valent les marées de 30 ans, tout feu et flamme les premiers jours et qui, après 6 mois, rassasié d'un bonheur pur et tranquille, déserte la chambre conjugale. Ce n'est pas d'hier que j'ai constaté son penchant à s'éprendre de ce qu'il y a en somme de plus séduisant au monde, d'un grand nom noblement porté et d'une illustration dont les rayons rejailliraient sur elle. Que de fois j'ai entendu dire à Mistress Brian, « Avant tout, tante, je veux être fière de mon mari. Je veux, dès que je prononcerai son nom, devenu le mien, lire dans les yeux l'admiration et l'envie, et qu'autour de moi on murmure. Être aimé d'un tel homme, c'est le bonheur. » Il hocha la tête et d'un ton grave. Je m'interrogeai Daniel et je compris que je réalisais le programme de Miss Sarah Brandon. Et le résultat de mes réflexions fut que je serais un insensé de laisser échapper le bonheur qui passait à ma portée et qu'il fallait me risquer. Je m'armai donc de résolution et c'est à Sir Thomas Elgin que je m'ouvris de mes projets. Je renonce à vous décrire la stupeur de cet honorable gentleman. Vous plaisantez, me dit-il tout d'abord, et votre plaisanterie m'afflige. Mais quand il vit que jamais je n'avais parlé plus sérieusement, lui, d'un flegme aussi imperturbable, il se fâcha tout rouge. Et morbleu, si par impossible j'étais malheureux en ménage, ce n'était pas à lui que je devais m'aller plaindre. Mais je faillis tomber de mon haut quand froidement il me déclara qu'il ferait son possible pour empêcher ce mariage. C'est qu'il n'en voulait pas démordre, et ce ne fut pas trop de toute mon adresse pour ébranler sa résolution. Et même après plus de 2 heures de discussion, tout ce que j'ai pu obtenir fut qu'il resterait neutre et qu'il laisserait à Mistress Brian la responsabilité d'un consentement ou d'un refus. Il riait, monsieur de la Ville-Audrey. Il riait de tout son cœur, sans doute en se rappelant sa discussion avec Sir Elgin et sa triomphante habileté. « Donc, reprit-il, je m'adressais à Mistress Brian. Ah, elle n'y alla pas par 4 chemins. Dès les premiers mois, elle m'appela, Dieu me pardonne, vieux fou. Et carrément, elle me pria de ne plus me représenter rue du cirque. Je voulus insister, inutile. Elle ne voulut seulement pas m'entendre, la vieille puritaine, et comme je devenais pressant, elle me salua d'une belle révérence et sortit, me laissant seul et fort penaud au milieu du salon. Pour ce jour-là, je n'avais qu'un parti à prendre, me retirer. C'est ce que je fis, content qu'un entretien avec sa nièce changerait ses dispositions. Point. Le lendemain, quand j'arrivai rue du cirque, les domestiques me dirent que Sir Thomas Elgin était sorti et que Mistress Brian et Miss Sarah venaient de partir pour Fontainebleau. Le lendemain, nouvelle défaite, et ainsi pendant 1 semaine, je trouvais la porte close. L'inquiétude me prenait quand un commissionnaire, un matin, m'apporta une lettre. C'était Miss Sarah qui m'écrivait. Elle me priait de me trouver le jour même à 4 heures au bois de Boulogne, près de la cascade, ajoutant qu'elle devait sortir dans l'après-midi à cheval avec Sir Tom, qu'elle lui échapperait et qu'elle me rejoindrait. Vous jugez si je fus exact et bien m'en pris, car un peu avant la demi de 4 heures, je l'aperçus. Je la devinais plutôt, arrivant vers moi, son cheval lancé à fond de train. Devant moi, elle s'arrêta court et sautant à terre. « Je suis si exactement surveillée, me dit-elle, qu'aujourd'hui seulement j'ai pu vous écrire. Cette surveillance qui m'outrage et blesse mes sentiments les plus chers, je ne la supporterai pas davantage. Mais voici, emmenez-moi, partons. » Jamais, Daniel, jamais je ne l'avais vue si adorablement belle qu'en ce moment. Le teint animé par la rapidité de la course, l'œil étincelant d'audace et de passion, la lèvre frémissante. Et elle disait encore « Je sais bien que je serai perdue, que vous-même peut-être vous me mépriserez. N'importe, partons, partons. » Il s'arrêta, suffoqué par l'émotion, mais bientôt se remettant. « S'entendre dire cela, s'écria-t-il, par une telle femme. Ah, Daniel, c'est une de ces sensations qui suffisent à emplir la vie d'un homme. Et cependant, j'ai le courage, alors que je me sentais devenir fou moi-même, de lui parler le langage de la froide raison. Oui, j'ai sur moi-même cet empire prodigieux de la conjurer de rentrer chez elle. Et pourtant elle pleurait. Elle m'accusait de ne pas l'aimer, mais j'avais trouvé une issue à cette situation. « Sarah, lui dis-je, rentrez chez vous, écrivez-moi ce que vous venez de me dire, et je suis certain de forcer la main de vos parents. » Ainsi elle fit, et ce que j'avais prévu arriva. Devant cette preuve de ce qu'ils appelaient notre folie, Sir Thomas Elgin et Mistress Brian comprirent que de plus longues résistances seraient une imprudence inutile. Et après quelques réserves, sous certaines conditions honorables, « Vous le voulez, nous dirent-ils à Sarah et à moi, soyez donc unis. » Et voilà quel enchaînement de circonstances le comte de la Ville-Audrey attribuait au hasard. « À hasard béni, ajoutait-il. » Depuis l'accident de l'honorable Thomas Elgin et l'évanouissement de Miss Sarah, jusqu'à ce rendez-vous au bois de Boulogne et à ce projet d'enlèvement, tout lui paraissait simple et naturel, oui, tout. Même ce fait d'une jeune mondaine s'éprenant de ses opinions politiques jusqu'à apprendre par cœur ses discours. Daniel était abasourdi. Qu'un homme tel que le comte ne vit rien de l'intrigue ourdie autour de lui, cela le surpassait. Le comte cependant n'était pas aveugle à ce point de ne pas discerner quelque chose des impressions de Daniel. Son abord propre fut froissé car il fronça le sourcil et brusquement. « Que ruminez-vous ainsi ? » demanda-t-il. « Voyons, ayez le courage de vos opinions. Vous soupçonnez Miss Brandon de calcul honteux ou de vue intéressée à tout le moins. » « Je ne dis pas cela, monsieur, balbutia Daniel. Non, mais vous le pensez, ce qui est bien pis. Eh bien, moi, je puis dissiper vos injurieuses préventions. Que viserait, selon vous, Miss Brandon en m'épousant ? Ma fortune, n'est-ce pas ? À cela, je n'ai qu'un mot à répondre, mais il est décisif. Sarah est plus riche que moi. » Comment et à quel prix Miss Brandon avait-elle su se procurer une fortune ? Daniel le savait ou croyait le savoir par monsieur de Brévent. Aussi, ne fut-il pas maître d'un tressaillement que le comte surprit et qu'il irrita. « Oui, plus riche que moi, insista-t-il. Les puits de pétrole dont elle a hérité de son père rapportent, bon an, mal an, de 30 à 40 000 dollars. Et encore sont-ils très négligés. Mieux exploités, ils rendraient le double, le triple, sextuple, que sais-je. C'est une mine en quelque sorte inépuisable, ainsi que me le démontrait Sir Thomas Elgin. Si le pétrole ne donnait pas des bénéfices inouïs, comment expliqueriez-vous cette fureur soudaine dont la positive Amérique a été saisie, qu'on a appelée la fièvre de l'huile, et qui a enrichi plus de gens que la Californie et la fièvre de l'or ? Ah, il y a quelque chose à tenter de ce côté, quelque chose de grand, et pour peu qu'on dispose de capitaux considérables. » Il s'animait, il s'échauffait, il s'oubliait lorsque brusquement il s'arrêta court. Évidemment, il avait failli se trahir, laisser voir sa pensée tout entière. Aussi, reprit-il vivement. « Mais en voilà assez, je suppose, pour écarter tout soupçon de cupidité. Maintenant, vous me direz peut-être que je suis pour Miss Brandon un pis-aller. Eh bien non. En ce moment même, elle a à choisir entre moi et un prétendant bien plus jeune que moi, et dont la fortune est de beaucoup supérieure à la mienne, Monsieur Wilkie de Gordon Chalus. » D'où venait que Monsieur de la Villaudrie semblait le prendre pour juge de sa conduite et paraissait plaider sa cause devant lui. Voilà ce que Daniel ne songeait même pas à se demander, tant était grand le désordre de son esprit. Cependant, comme le comte insistait pour avoir son avis, comme il le pressait, comme il s'obstinait à lui répéter « Eh bien, voyez-vous encore une objection ?» Il oublia les prudentes recommandations de Monsieur de Brévent et d'une voix troublée. « Sans doute, monsieur le comte, fit-il, vous connaissez la famille de Miss Brandon ? Certes, me croyez-vous donc homme à prendre chat en poche ? Son digne père était l'honneur même. Et son passé ?» Le comte bondit sur son fauteuil et enveloppant Daniel d'un regard méchant. « Oh oh ! » fit-il. « Est-ce que déjà quelques vides gredins se seraient fait l'écho des calomnies infâmes dont on a essayé de ternir l'honneur de la plus noble et de la plus chaste des créatures ?»« Ah ! Nommez-moi le misérable !» Involontairement, Daniel se tourna vers la porte derrière laquelle écoutait M. de Brévent. Peut-être s'attendait-il à le voir apparaître, mais M. de Brévent ne bougea pas. « Le passé de Sarah, » continuait le comte, « je le connais heure par heure, et j'en réponds, comme du mien. Cher adoré, avant que de consentir à devenir ma femme, » elle a voulu tout me dire, oui, tout, sans forfanterie ni fausse pudeur. Et je sais ce qu'elle a souffert. N'a-t-on pas prétendu qu'elle avait été la complice d'un lâche coquin, d'un caissier qui avait volé sa caisse ? N'a-t-on pas dit qu'elle avait poussé au suicide un jeune sot, un joueur, et qu'elle avait assisté impassible aux tortures de son agonie ? Ah, il ne faut que voir Sarah pour être sûr que ce soit là d'indigne et stupide invention de la haine. Et tenez, Daniel, croyez-moi, dès que vous verrez la calomnie s'acharner après un homme ou après une femme, dites-vous que cet homme ou cette femme ont blessé, humilié le vulgaire, la tourbe des lâches, des envieux et des sots, par une supériorité quelconque, de situation ou de fortune, de talent ou de beauté. Pour défendre Miss Brandon, il avait visiblement retrouvé l'énergie de la jeunesse. Son œil s'emplissait d'éclairs, sa voix vibrait, son geste menacé. « Mais laissons ce sujet pénible, fit-il, et causons sérieusement. » Il se leva et alla s'adosser à la cheminée, bien en face de Daniel. « Je vous ai dit, mon cher, commença-t-il, que Sir Tom et Miss Rose Bryan ont mis à mon mariage certaines conditions. La première est que Miss Brandon sera recueillie par ma famille comme elle mérite de l'être, non seulement honorablement, mais affectueusement, tendrement même. De ma famille, je m'en moque. Il ne me reste que des arrière-cousins qui, n'ayant rien à prétendre à ma succession, se soucient de moi aussi peu que je me soucie d'eux. Mais j'ai une fille, et là est le danger. La certitude que je vais me remarier la désole, je l'ai vue. Elle se révolte à la seule idée qu'une autre femme va prendre la place de sa mère, porter mon nom et régner dans ma maison. » Daniel, maintenant, commençait à comprendre ce qu'il devait penser du rendez-vous manqué qui lui avait valu la visite de M. de la Villaudrie. « Or, disait le comte, Je connais mon Henriette, c'est sa mère elle-même. Faible, mais entêtée jusqu'à la démence. Si elle s'est mise en tête de mal recevoir Miss Sarah, elle la recevra mal, quoi qu'elle m'ait promis, et trouvera le moyen de lui faire quelque abominable à Vanny. Et si néanmoins Sarah consent à passer outre, ma maison deviendra un enfer et ma femme sera malheureuse. Elle sera Henriette assez d'empire pour la ramener à la raison? Je ne le crois pas. Mais cette influence que je n'ai pas, je sais un charmant garçon qui l'a, et c'est vous. Daniel était devenu pourpre. C'était la première fois que le comte s'exprimait si clairement. Je n'ai jamais désapprouvé, continuait-il, les projets de ma pauvre femme. Et la preuve, c'est que j'autorisais vos assiduités. Aujourd'hui, voici mes conditions. Que ma fille soit pour Sarah ce que je veux qu'elle soit. Une sœur tendre et dévouée. Et 6 mois après mon mariage, il y aura une autre noce à l'hôtel de la Villaudrie. Daniel voulait parler, il l'arrêta. Non, rien, fit-il. Je vous ai démontré la sagesse du parti que je prends. Agissez en conséquence. Il avait remis son chapeau et déjà il avait ouvert la porte. Ah, encore un mot, ajouta-t-il. Je suis chargé par Miss Brandon de vous conduire chez elle ce soir, elle veut vous parler. Venez me demander à dîner, nous irons après rue du cirque. Sur quoi ? Songez à ce que je vous ai dit et... au revoir.